Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un webchat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 22 janvier 2019, nous diffusons en direct, mais peut-être écoutez-vous un podcast. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April. Le site web de l'association est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Donc la page est déjà en ligne, elle sera complétée après l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, voici maintenant le programme de cette émission. Nous allons commencer par une intervention de ma collègue Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, qui va nous faire un point sur des actions de sensibilisation, pour démarrer ainsi une chronique intitulée « Le libre fait sa com ». Donc, normalement, Isabella est avec nous par téléphone. Bonjour Isabella.
Bonjour.
Alors, on se retrouve d'ici quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les distributions GNU Linux. Alors, plusieurs mots que nous explicitera. Et j'ai le plaisir avec moi d'avoir en studio donc Nicolas Dandrimont de Debian. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Olivier Fraisse d'Ubuntu.
Salut.
Et également Charlotte Boulanger, toujours pour Ubuntu. Bonjour Charlotte.
Salut.
Et tout à l'heure, Jean-Christophe Monard nous rejoindra au téléphone pour Mageia. Alors, sur des mots qu'on expliquera évidemment tout à l'heure. Ensuite, aux alentours de 17h10, nous aborderons notre dernier sujet qui concernera la boutique en ligne, en vente libre, avec les mêmes invités, par chance. Et je salue de nouveau Charlotte qui est également à la régie, donc qui va faire deux tâches aujourd'hui en parallèle. Donc tout de suite, place au premier sujet. Nous allons donc commencer par une intervention de ma collègue Isabella Vanni, qui, je le rappelle, est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Et Isabella commence une chronique intitulée « Le libre fait sa com ». Alors Isabella, déjà première question, quel est l'objectif de cette chronique ?
L'objectif de la chronique, c'est d'annoncer des actions de sensibilisation menées par l'April ou par d'autres associations, ou par d'autres structures. Et donc montrer comment on peut promouvoir le logiciel libre auprès du plus large public.
Ok, très bien. Alors de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui ?
Donc j'aurais pensé à deux thèmes principaux. Donc le Festival des libertés numériques qui démarre bientôt le 25 janvier, donc ce vendredi, et qui durera jusqu'au 9 février, donc pour un total d'environ 2 semaines. Et c'est un festival coordonné par les bibliothécaires de l'INSA de Rennes, donc l'Institut National de Sciences Appliquées. Et c'est plus intéressant parce que cet événement s'est élargi. Au début, c'était juste une crypto-partie au Café Vie Privée, si on veut utiliser l'expression française. Et après, petit à petit, voilà, il a eu de plus en plus succès, au point qu'en 2018, le premier festival des libertés numériques a eu lieu à Rennes et aux environs de Rennes. Je voulais préciser la commune. Et cette année, donc en 2019, deuxième édition, le festival se déplace même en dehors de la Bretagne. Et donc, il y aura des événements aussi à Rouen, Nantes et dans d'autres communes.
D'accord. Et est-ce que l'April participe à cet événement d'une façon ou d'une
autre ?
Alors,
malheureusement, nous n'avons pas réussi à proposer des conférences. Par contre, l'Expo Libre, donc les panneaux qui expliquent la philosophie du logiciel libre et qui ont été réalisés par le groupe de travail sensibilisation de l'April, seront bien présents à cette édition et seront en particulier exposés à la bibliothèque de Sciences Po de Rennes.
D'accord.
Il y a plein d'autres événements. On compte environ une cinquantaine d'événements. Il y a plein de bibliothèques qui participent, des tiers-lieux comme l'Open Factory à Brest, et plein d'associations et de groupes d'utilisateurs ou utilisatrices à Rennes et environ, bien évidemment.
Donc c'est un festival des libertés numériques qui se passe à Rennes du 25 janvier au 9 février. C'est le public cible, c'est tout public. Hein. C'est la personne qui veut découvrir un petit peu jusqu'aux personnes qui sont plus pointues sur le sujet des libertés informatiques.
Tout à fait. Et je précise, c'est à Rennes, mais pas que. Il y a plein d'autres villes. Il y a Rouen, Nantes, Lannion, Brest et plein d'autres communes. C'est vraiment plus large cette année. Donc, on est bien content de signaler cet événement. Et puis le deuxième point.
Avant de finir, donc sur le site de l'April, vous retrouvez dans la page des références le lien vers le site des libertés numériques. Et également, vous le retrouvez évidemment sur l'agenda du libre. Alors sinon, je vais le donner, mais je ne suis pas sûr que vous arriviez à le noter de façon facile. C'est FDLN pour Festival des libertés numériques. insa-rennes.fr. Mais sinon, vous allez sur l'agenda du libre, donc agendadulibre.org, ou sur le site de l'April et vous retrouvez ce lien qui vous renvoie vers le site du Festival des libertés numériques. Donc, tu voulais aborder un deuxième point, Isabella.
Oui, je souhaitais faire un point d'étape pour le libre en fait. On en a parlé la première fois dans l'émission du 4 décembre. Donc, c'est une initiative coordonnée par l'April et ça consiste en un ensemble d'événements de découverte du logiciel libre, donc adressés à un plus large public, qui ont lieu autour du printemps et que cette année, on rappelle les dates, c'est à partir du 2 mars jusqu'au 7 avril 2019. Donc, pour rappel, l'April coordonne l'initiative, mais ce sont les groupes d'utilisateurs ou l'utilisatrice de logiciels libres qui organisent les événements, ainsi que les médiathèques, les clubs informatiques, les espaces publics d'accès Internet, toute structure ou association ayant à cœur la promotion du logiciel libre peut bien évidemment organiser des événements. Et je rappelle que pour référencer les événements dans le cadre du Libre en Fête, il suffit de rajouter le mot-clé Libre en Fête 2019 avec un tiret entre chaque mot lors de la soumission de l'événement dans l'agenda du Libre. Mais il est possible aussi, bien sûr, d'ajouter le mot-clé par la suite si vous avez déjà prévu et soumis des événements entre ces dates.
Et donc, pour l'instant, il y a combien d'événements référencés à peu près ?
Voilà. combien d'événements on en a aujourd'hui ou combien on cible ?
Alors, combien on en a aujourd'hui et combien on cible ?
Très bien. Donc, aujourd'hui, pour l'instant, il y a 25 événements référencés. On en cible 200. Donc je reste optimiste parce que cette année on a lancé les premiers appels beaucoup à l'avance, donc à la mi-décembre. Normalement on s'y prenait un peu plus tard, donc j'espère que par anticipation on fera avoir plus d'événements. Et j'aimerais bien signaler deux événements qui ont lieu en Île-de-France,
vas-y.
En particulier en Essonne. Donc il y a l'espace public numérique de Vert-le-Grand qui a déjà participé à l'édition 2018 et ça fait très plaisir qu'il participe à nouveau. Donc du 26 au 30 mars, au menu présentation de logiciels libres et fête installation. Et puis il y a le club informatique libre de Gomet-le-Châtel, toujours en Essonne, qui propose lui aussi une démonstration de logiciels libres, une fête d'installation. Et ce qui nous fait très plaisir, c'est qu'ils exposent aussi l'Expo Libre. Donc, une autre occasion pour nos panneaux d'être exposés et admirés. Et puis, il y a une toute nouvelle association aussi, Ethics, qui est née en septembre 2018. Donc, elle a son siège à Alençon, en Normandie. Donc, c'est une toute nouvelle association et elle a déjà dit présent au Libre en Fête 2019. Donc, on est ravis.
Très bien, donc il y a encore évidemment du temps pour les structures organisatrices pour inscrire leur événement dans le cadre du Libre en Fête et nous n'avons aucun doute sur le fait que nous atteindrons les 100 événements. C'est un événement tellement récurrent en fait que j'ai l'impression que beaucoup de groupes organisent les événements et au dernier moment rajoutent sur l'agenda du Libre avec le tag.
J'ai un peu l'impression, oui.
Voilà, et donc effectivement, et voilà. Après, ça peut être l'occasion de nouvelles structures d'organiser des événements, de créer des partenariats par exemple avec des espaces publics numériques. Tu parlais de l'Expo Libre, donc le site de l'Expo Libre, c'est expolibre.org. Toute personne peut imprimer l'Expo Libre. Il y a des PDF, format impression qui sont disponibles. Certaines sont disponibles à la location. Et c'est un outil qui est très utile lors de ces événements-là, parce que ça permet aux gens, aux personnes qui participent à l'événement, de s'informer sur les concepts du logiciel libre et ensuite d'aller en détail discuter de ces enjeux avec les personnes qui sont présentes sur les événements.
Tout à fait.
Alors, je crois que tu veux aborder un dernier point. Donc là, c'était les annonces de deux événements. C'est les réunions du groupe travail sensibilisation de l'April, justement.
Oui, donc le groupe de travail sensibilisation de l'April se réunit tous les troisièmes jeudis du mois. Donc, si vous avez des doutes sur quel jeudi est le bon, il suffit d'aller voir dans l'agenda du livre à nouveau ou sur l'agenda sur le site de l'April. Donc, la dernière réunion a eu lieu toujours à la Fondation pour le progrès de l'homme dans le 11e arrondissement à Paris. Donc, elle a eu lieu le 17 janvier, donc jeudi dernier. Et on a un atelier de brainstorming, donc tempête de cerveau, si on veut faire la traduction en français, pour chercher des idées pour le nouveau t-shirt de l'April.
Ah, ce qui est un projet très très important pour la garde-robe de tous les membres de l'April.
C'est fondamental. En hiver, surtout, c'est tout à fait. Et donc il y a plein d'idées qui sont ressorties. On a déjà fait un premier tri. Et on va mettre, je pense qu'on va rajouter parmi les liens de cette émission, je pense que ça peut être une bonne idée, le lien au PAD où j'ai lancé un nouveau appel à idées. Donc vous trouverez les idées qu'on a déjà trouvées, mais voilà, si vous avez d'autres idées, d'autres pistes, n'hésitez pas à intervenir. Voilà.
Alors je précise qu'un pad, c'est une page sur Internet, sur un site web qui permet à n'importe qui de contribuer sans créer un compte. Donc on peut directement taper du texte et proposer des améliorations. Donc on mettra le lien dans la page de référence sur le site de l'April, donc april.org. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette première chronique ou est-ce que tu... Il y a peut-être un dernier événement.
Je vais te dire que si on a lancé un deuxième appel autour du 15 janvier et... Dans ce deuxième appel, justement, je voulais dire aux associations qui sont actives sur l'agenda du livre, qui n'ont pas encore d'idée pour ce qui est de l'événement à référencer dans le cadre de Libre en Fête, qu'ils peuvent regarder ce qui a déjà été fait pendant les éditions passées. Tout est sur le site du Libre en Fête. Et que s'ils ont besoin de bénévoles en région, l'April a beaucoup de membres éparpillés dans toute la France. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons faire un appel à bénévoles pour vous. Il suffit de préciser, bien évidemment, toutes les informations nécessaires, date, horaire, tâches prévues, compétences souhaitées, etc.
Oui, tout à fait.
On sera ravis de vous aider.
Il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour qu'on relaie auprès de nos membres les besoins d'aide. Donc avant de clore cette chronique, je vais juste annoncer un dernier événement parce qu'il a lieu pareil en fin de semaine. Donc, c'est un événement qui s'appelle FlossCon. Alors bon, c'est un terme anglais, on va pas, mais qui veut dire en gros les logiciels libres et les données ouvertes pour une transformation numérique maîtrisée. C'est la description de cette conférence qui a lieu donc à la fois à Grenoble et à Fontaine du 27 janvier au mardi 29 janvier. Donc du dimanche 27 au mardi 29, avec notamment une table ronde en présence d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, donc Grenoble, ville membre de l'April, et qui parlera des collectivités locales et logiciels libres. Il y a la projection en avant-première du documentaire La bataille du libre en présence du réalisateur Philippe Borel, et notre propre président, Jean-Christophe Becquet, qui habite dans la région, présentera animera deux ateliers autour d'OpenStreetMap, qui est donc un projet collaboratif de cartographie libre. Donc voilà, ça se passe autour de Grenoble, donc à Grenoble et à Fontaine, c'est le FlossCon. Les références sont sur le site de l'April et sur le site, je pense, de l'agenda du libre, donc du dimanche 27 janvier au mardi 29 janvier, et on soutient cet événement. Donc je rappelle le site de l'agenda du libre, on retrouve tous les événements, donc agendadulibre.org. Et sur le site de l'April, vous pouvez trouver des informations sur le groupe sensibilisation pour le rejoindre. Je précise que le groupe sensibilisation est ouvert à toute personne qui souhaite contribuer, pas besoin d'être membre de l'April. Est-ce qu'Isabella, tu veux ajouter quelque chose avant que nous passions à la pause musicale ? Eh bien, écoute, Isabella, en tout cas, je te remercie pour cette première donc, chronique qui s'appelle « Le libre fait sa com ». Et donc, on se retrouve sans doute le mois prochain pour une deuxième chronique. Nous allons passer une petite pause musicale avant d'entamer le deuxième sujet. Donc l'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos amis, vos familles, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Donc c'est plutôt des licences type Creative Commons partagées l'identique ou licence art libre. Et en l'occurrence, nous allons écouter un morceau qui s'appelle Sometimes par Jazzar et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Vous venez d'écouter Sometimes par Jazzar, donc une musique qui est disponible sous licence libre CC by SA, donc partage à l'identique. Et vous trouverez la référence sur le site de l'April. Alors, nous venons de parler de sensibilisation. Nous allons continuer un petit peu avec le sujet suivant, de parler de sensibilisation, avec le sujet des distributions GNU Linux, avec nos invités aujourd'hui. Donc, en studio, Nicolas Dandrimont, du projet Debian. Rebonjour Nicolas.
Rebonjour.
Olivier Fraisse, Ubuntu. Bonjour Olivier.
Resalut.
Resalut. Charlotte Boulanger, Ubuntu également. Rebonjour Charlotte.
Rebonjour Fred.
Et normalement, nous a rejoint au téléphone Jean-Christophe Monard du projet Mageia. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Fred.
Super, donc tout le monde est présent. Toutes les personnes sont là. Donc nous allons essayer d'expliquer un petit peu ce que sont ces distributions GNU Linux. Comment s'y mettre, comment commencer à utiliser des systèmes libres, comment éventuellement contribuer. Donc nous allons passer une petite heure sur ce sujet. Alors on va commencer par une première question, parce qu'en fait, distribution GNU Linux... Il y a plusieurs termes que je pense que les gens qui écoutent ne connaissent pas forcément. Nicolas, peut-être, est-ce que tu veux faire l'introduction pour expliquer ce qu'est une distribution GNU Linux, un système d'exploitation libre ?
Alors, une distribution GNU Linux, c'est effectivement un système d'exploitation complet qu'on va pouvoir mettre sur son ordinateur, par exemple. L'idée, c'est que au lieu d'être basé sur le système classique, on peut penser par exemple à Windows de Microsoft. Ça va être basé autour du noyau Linux, qui est un logiciel libre, qui est développé maintenant depuis 25 ans par une communauté de développeurs. Et au-dessus de ce noyau Linux, on va ajouter des logiciels qui seront, dans la majorité des cas, aussi des logiciels libres. Donc des logiciels qui vont permettre d'avoir un environnement de bureau, un navigateur web qui va par exemple être Firefox qu'on va pouvoir utiliser pour naviguer sur Internet, un client email, de la bureautique, etc. Donc tous les logiciels que l'on peut vouloir utiliser sur son ordinateur vont être disponibles à travers les distributions GNU Linux.
Alors tu as expliqué, et après je passerai la parole évidemment aux autres personnes, tu as expliqué Linux et distribution, le terme GNU.
Alors, le terme GNU, ça vient du projet GNU, qui est un... Donc en fait, le projet GNU, c'est un projet de système d'exploitation qui a été lancé par Richard Stallman, dont on a probablement déjà parlé dans cette émission, il y a maintenant 35 ans, 35 ans cette année. Donc l'idée du projet GNU, c'est d'avoir un système d'exploitation qui libère les utilisateurs. Donc l'idée, c'est d'avoir un ensemble de logiciels que tout le monde peut, qui sont des logiciels libres en fait, donc que tout le monde va pouvoir utiliser pour n'importe quel usage, va pouvoir diffuser, va pouvoir modifier et redistribuer, si on en a les compétences bien sûr. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, donc le projet GNU est vraiment l'idée d'avoir un système d'exploitation qui soit utilisable par tous pour n'importe quel usage.
Un système d'exploitation libre, entièrement libre, utilisable par toute personne. Olivier, est-ce que tu veux compléter sur cette introduction ?
Je crois que l'essentiel a été dit, hein. Alors, distribution, c'est peut-être pas forcément très clair pour tout le monde. On ne va pas distribuer des GNU en plastique comme on distribue des flyers. Une distribution, c'est un ensemble de logiciels. On peut dire ça comme ça, je pense. C'est une sélection de logiciels libres telle version du noyau, le noyau Linux, plus une interface graphique plutôt qu'une autre. Et surtout un système de packaging. Alors, système de packaging, je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer facilement. Je ne sais pas si Nico est inspiré là-dessus.
Ou peut-être Jean-Christophe. Est-ce que tu veux compléter l'introduction ? Et après, peut-être que je pourrais contribuer à cette discussion.
Moi, j'ai envie de parler avec un mot français, oui. Empaquetage. Donc, emballage, empaquetage. C'est-à-dire qu'on prépare les morceaux de logiciel. Parce que ce qui est important dans le logiciel libre, avec les quatre libertés, c'est d'avoir un code source comment le logiciel a été écrit par des êtres humains, ou à peu près, hein, ce qu'on appelle des informaticiens. Donc on fabrique du logiciel libre et on peut lire son code source, tel qu'il a été écrit. Ensuite, si on veut l'utiliser, il faut transformer ce code source dans un langage que les machines peuvent comprendre. Les machines, bah, elles comprennent que le binaire, le 0 et le 1. Quand on achète un logiciel propriétaire, on n'a jamais que les 0 et les 1, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe dedans. Un logiciel libre, il y a quelque part le code source. Et il faut préparer ce code source de manière cohérente. Et là, je crois que pour chaque distribution, le mot cohérence est important. Chaque distribution est un ensemble cohérent de logiciels qui ont été préparés, empaquetés, de manière à être cohérents entre eux pour fabriquer cette architecture qui fonctionne bien, qui est bien huilée d'habitude. Bon, il y a parfois des petits problèmes, mais pas plus qu'ailleurs. Et donc, on a cet ensemble cohérent. Donc Debian, Slackware, Ubuntu, Mageia sont des ensembles cohérents où, à partir de ces codes sources qu'utilisent toutes ces distributions, ces codes sources ont reçu un empaquetage, une préparation pour en faire des paquets de 0 et de 1 que l'ordinateur peut utiliser. Parce que ce qu'a écrit l'informaticien, l'ordinateur n'est pas capable de l'utiliser. Il faut lui préparer ça. Est-ce que j'ai pas dit de bêtises ?
Ça me paraît très clair. Donc, en fait, avant l'existence de ces distributions GNU Linux ou d'autres systèmes libres, finalement, les personnes qui souhaitaient avoir un système libre devaient composer elles-mêmes leur système en réunissant tous les éléments nécessaires. Et ce qu'ont apporté les distributions, c'est alors, évidemment une sélection de logiciels libres, mais finalement, on va en reparler tout à l'heure, on retrouve à peu près les mêmes logiciels libres sur l'ensemble des distributions. La grosse différence, ça va être peut-être sur l'environnement de bureau, et on en parlera peut-être tout à l'heure, et peut-être aussi sur la présence de logiciels privateurs en plus. Mais ce qu'apportent les distributions, c'est une méthode d'installation qui varie en fonction des distributions, et une méthode de mise à jour des paquets ensuite pour effectivement soit rajouter des paquets, soit mettre à jour les paquets dans leur cycle de vie, parce que ce sont des logiciels libres qui évoluent, et donc il y a un cycle de vie. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair comme résumé ?
Ouais, c'est ça.
D'accord. Alors, on va passer là, donc, à la deuxième question. On pourrait se dire, tout à l'heure, c'était Nicolas Dandrimont, donc de Debian, qui parlait de Microsoft Windows. On pourrait aussi citer macOS d'Apple. Les gens qui ont l'habitude de ces systèmes se disent, enfin, ont la compréhension que finalement, l'ensemble des logiciels viennent d'une seule structure, que ce soit Microsoft ou Apple. Et là, aujourd'hui, alors, il y a une ambiance un peu particulière au studio, je préviens si vous entendez des rires.
Ouais, c'est de ma faute.
C'est une ambiance très détendue. Et là, tout d'un coup, on va parler de distribution GNU Linux au pluriel. Donc, nous avons quelqu'un de Debian, deux mêmes personnes d'Ubuntu, quelqu'un de Mageia. Alors, j'ai une question assez basique, entre guillemets. Pourquoi il y a plusieurs distributions GNU Linux et qu'est-ce qui les différencie ? Pour l'instant, on va rester à un niveau un peu supérieur, sans forcément rentrer dans le détail. Mais pourquoi il y a plusieurs distributions GNU Linux ? Qui veut intervenir sur cette question ?
Alors, Nicolas Dandrimont, Debian. On pourrait se poser la même question. Pourquoi il y a plusieurs marques de chaussures ? Parce qu'il y a plusieurs formes de pieds et parce qu'il y a plusieurs...
Il y a des pieds plus poilus que d'autres ?
Non, mais enfin, je veux dire, tu vas pas être confortable dans toutes les paires de chaussures. De la même manière, les usages de l'informatique sont très divers. Et donc, les gens vont vouloir assembler leur univers informatique de la manière qui les intéresse. C'est pour ça qu'on a une diversité assez large dans les distributions GNU Linux. La possibilité qui est ouverte par la publication du code source et la disponibilité des logiciels et la possibilité aussi de les modifier permet à chacun de trouver chaussure à son pied et de faire chaussure à son pied. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des centaines voire des milliers de distributions Linux qui sont différentes, qui vont toutes partir de la même base, de plus ou moins les mêmes logiciels, mais qui vont être intégrées de manière subtilement différente pour convenir à leurs utilisateurs. Quoi.
Donc Debian, ça serait comme une grosse botte où il faut lacer pendant très longtemps, et Ubuntu, ce serait la chaussure à scratch, c'est ça ?
On peut le voir comme ça.
Alors, on ne va pas commencer le débat entre les distributions, je vous préviens. Hein, je préviens Olivier que on rentrera dans le détail des débats tout à l'heure. Jean-Christophe Monard, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question finalement de l'existence de plusieurs distributions, donc notamment l'existence de Mageia en plus d'Ubuntu, Debian et évidemment des autres qu'on citera tout à l'heure. Jean-Christophe.
C'est à la fois la puissance et la faiblesse du libre, la liberté. La liberté, c'est le choix. Donc, les gens qui ont... Je ne parlerai pas de taille de pied différent, mais plutôt d'utilisation différente. Entre un escarpin et une chaussure de montagne, il est clair qu'il vaut mieux avoir des savoir-faire différents. Et certaines distributions sont plus adaptées à faire du serveur, d'autres au grand public, et ainsi de suite, plus les particularismes nationaux hein, qui existent aussi. Donc, je crois qu'à partir du moment où chacun peut modifier quelque chose, hein, moi un jour j'avais pris une distribution, bien que n'étant pas un vrai informaticien, une distribution qui tenait sur 3 disquettes, je l'ai francisée, je peux dire quelque part que ce jour-là j'ai fait ma distribution. Bon, je me suis bien amusé, ça n'a pas servi à grand-chose d'autre, mais... donc le libre permet plein de possibilités, et je crois que c'est une de ses richesses. Malheureusement, c'est aussi une de ses faiblesses, parce qu'il n'y a peut-être pas toujours assez de monde pour telle ou telle distribution. Je me souviens par exemple de la distribution Zenvalk, que j'adorais, mais bon, qui n'est plus vraiment mise à jour.
Alors effectivement, comme tu le dis, après je repasserai la parole à Olivier Fraisse, c'est une des forces et une des faiblesses, entre guillemets, du logiciel libre, mais quand tu parlais de ta distribution que tu t'es faite de ton côté, ça me fait penser qu'il est important de préciser qu'il y a aussi des distributions, là on parle de distributions génériques, des distributions spécialisées par exemple pour l'audio, pour la vidéo, pour l'éducation, pour la sécurité. Le but aujourd'hui, c'est pas de les citer toutes parce qu'il y en a beaucoup, et vous retrouverez des références sur le site de l'April ou sur Wikipédia. Et c'est aussi quand même une des grosses forces du libre, effectivement, c'est d'adapter par rapport à des besoins spécifiques et sans dépendre du choix d'un éditeur qui peut-être qu'économiquement n'aura pas intérêt à créer une distribution ou un système d'exploitation pour une communauté dédiée, là où le libre a cette réponse. Et aussi la force de la communauté, on y reviendra tout à l'heure, c'est un des critères de choix, parce que ça va être une de mes questions évidemment, c'est comment on choisit entre ces différentes distributions, c'est un des critères de choix. Olivier, tu voulais réagir ?
Justement, sur le choix, je trouve que c'est l'inconvénient du libre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choix et du coup, ça rend inaccessible au grand public. Plus il y a de choix, plus c'est complexe. Il faut comparer tout un tas de trucs. Même dans une même distribution, il y a plusieurs variantes. Donc dans Ubuntu, mais c'est vrai aussi ailleurs. Il y a plein d'interfaces différentes. Il y a une version pour les ingénieurs du son et de la vidéo qui s'appelle Ubuntu Studio. Il y a KUbuntu, dont on ne sait pas vraiment la différence réelle avec Ubuntu sans le tester directement. Et c'est ça qui fait que c'est, d'après moi, pas facile pour le grand public de passer à un système GNU Linux. C'est qu'il y a trop de choix. Déjà, il faut expliquer pourquoi GNU Linux, c'est pas juste Linux et c'est pas toujours la même chose. Pourquoi GNU ? Pourquoi il faut préciser GNU ? Il faut toujours tout expliquer, surtout si on veut être juste. Et voilà. Et surtout le fait d'avoir à choisir. Moi, je me souviens quand j'ai installé ma première Debian, ça me demandait pourquoi il fallait que je mette un serveur. Enfin, ça me demandait s'il fallait que je mette un serveur IRCD. Je n'avais jamais compris ce que c'était, avec 2 i. À chaque fois que j'installais ça chez quelqu'un, j'ai dit bon, cette question-là, tu dis oui ou tu dis non, on s'en fout. Moi-même, je comprends pas. Et il y avait plein de questions. Il fallait choisir entre GNOME et KDE. Qu'est-ce que tu veux expliquer ça à tes potes qui veulent se passer de leur système vérolé, tu leur mets une Debian et ça te pose des questions. GNOME, KDE, alors c'est pas la même forme des boutons, la souris va marcher pareil, mais le curseur sera pas de la même couleur. Enfin, voilà.
Bon, on va revenir sur ces questions-là parce que là je crois que sinon on va perdre les gens déjà. GNOME, KDE. Alors sur la précision que j'ai demandé au départ sur distribution GNU Linux, comme c'est le terme. Titre du sujet, il était important de le préciser, mais j'ai parfaitement conscience que dans des événements libres, ces questions-là ne sont pas forcément abordées, et c'est pas forcément un mal au départ. Ça, c'est chacun fait les personnes font ce qu'elles veulent. Je voudrais avoir un petit peu la réaction aussi de Charlotte, qui a la délicate tâche aujourd'hui d'être aussi en régie. Je la remercie sur cette multiplicité de distribution et aussi avoir un petit peu son parcours, parce que comment elle est venue finalement aux distributions libres et sa rencontre avec Ubuntu. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus ?
Alors, effectivement, mon parcours n'est pas celui d'une informaticienne parce que j'ai découvert Ubuntu par le web design, de façon un peu détournée, mais en m'intéressant au web design, je me suis intéressée au développement. En m'intéressant au développement, je me suis intéressée à l'informatique. Et ce n'était pas lié à mon métier, mais en fait, Linux, quand tu ne connais pas, même si tu ne connais pas, ça a une espèce d'aura de personne qui fait de l'informatique pour de vrai. Et en m'intéressant à ça, et je suis partie vers Ubuntu parce que c'est pour les débutants celle qui est conseillée par beaucoup de sites grand public. Moi, par exemple, j'ai découvert avec le site Open Classroom, anciennement site du Zéro. Et ça, c'est eux, leur but du jeu, c'est d'être le plus grand public possible. Donc, moi, j'ai commencé avec Ubuntu, par exemple. J'ai essayé Debian il n'y a pas longtemps, et effectivement, ça pose beaucoup de questions au début, mais après, c'était plutôt cool. C'était plutôt une bonne surprise parce que on a l'impression qu'il y a un gouffre des fois entre Debian et Ubuntu, alors que pas du tout.
Alors, merci Charlotte, on aura l'occasion de passer tout à l'heure sur la deuxième partie, la partie contribution, parce que ta participation en tant que contributrice est également intéressante. Je vais continuer sur les questions justement. Alors là, je vais vous demander si possible d'être relativement bref, ou en tout cas d'être relativement clair. Et je vais commencer par Jean-Christophe Monard, d'expliquer finalement en quelques mots votre distribution. Pourquoi elle existe, d'où elle vient, comment elle fonctionne, en tout cas essayer de, entre guillemets, essayer de la vendre aux personnes qui écoutent, et pour qu'on comprenne mieux un petit peu quel est le positionnement de chaque distribution et éventuellement les différences entre elles. Donc Jean-Christophe, sur Mageia.
Bien, Mageia, ce qui caractérise Mageia aussi bien que ses ancêtres, c'est la facilité d'installation, la facilité d'utilisation, de mise à jour. Il y a toute une interface graphique, hein, C'est un système graphique qui permet donc de gérer cette distribution sans faire de ligne de commande. Bon, je me souviens une fois aux rencontres mondiales du logiciel libre, il y avait un Debianeux qui, pour se moquer d'un ancêtre de Mageia, disait « Bon, ça, c'est une distribution pour les secrétaires, c'est pas une distribution pour les hommes, les vrais. » Bon, je lui ai répondu « Oui, parce qu'avec ça, une secrétaire installe facilement un serveur ou un poste client sans avoir besoin d'un informaticien. » Donc, Mageia, puis aussi parce que j'ai rencontré... C'est une communauté qui est en grande partie francophone, donc ça c'est intéressant. Donc c'est pour ça que je l'utilise, entre autres. Et voilà, c'est quand je vais chez les gens pour installer Linux, ou au cours des install parties, bon, c'est effectivement la distribution que je préconise pour les débutants, bah, à cause de sa grande facilité et sa variété d'interfaces graphiques. On peut choisir en fonction des personnes, et puis d'une équipe qui est assez réactive. Voilà.
D'accord. Alors, Mageia, c'est une distribution qui existe, et alors, je ne sais plus depuis combien de temps. Tu parlais des ancêtres, c'est dérivé d'autres distributions qui existent depuis une vingtaine d'années. Ça me fait penser que d'ailleurs, je crois que les premières distributions GNU Linux doivent dater de 1992, avec vraiment les premières, à l'époque des noyaux Linux 0.90, quelque chose. Alors, Nicolas me fait un petit signe en doutant, mais étant plus vieux que Nicolas, j'ai à peu près confiance sur le fait que la première fois que j'en ai utilisé une, c'était à cette époque-là. Et je crois que d'ailleurs, celle-là existe toujours, c'était Slackware. C'était à l'époque sur des disquettes, il devait y avoir 50 ou 70 disquettes. En tout cas, voilà, Mageia a une longue historique de mise à jour. C'est une distribution, il faut le rappeler, que l'association qui porte Mageia est une association dont le siège social est à Paris. Il y a un forum qui a l'air très actif en français, comme les forums d'Ubuntu. D'ailleurs, c'est là que j'ai sollicité avoir quelqu'un de Mageia suite au fait que, au changement de date, la personne qui devait parler de Mageia, Anne-Nicolas, ne pouvait plus être disponible. Donc voilà, ça c'est Mageia. On va passer maintenant la parole donc à Nicolas Dandrimont pour Debian.
Du coup, la distribution Debian, notre slogan, c'est d'être le système d'exploitation universel. La distribution, elle a été créée en août 1993, donc elle fait partie des toutes premières distributions Linux qui ont été créées. Donc notre vision, c'est d'avoir une distribution qui soit le plus proche possible de ce que vont fournir les projets amont. Donc les logiciels que l'on va empaqueter dans notre distribution vont être le moins modifiés possible par rapport à ce qui est publié par les auteurs originaux. Notre autre force, c'est la diversité des architectures sur lesquelles on fonctionne, c'est-à-dire que Debian va pouvoir fonctionner du téléphone au supercalculateur en passant bien sûr par l'ordinateur classique de bureau ou ordinateur portable. Voilà, on va pouvoir faire tourner les mêmes logiciels sur toute cette diversité de dispositifs, d'ordinateurs.
Je voudrais intervenir sur Debian pour en dire du bien. Un jour, un expert en sécurité m'a dit à propos de Debian que ce sont les gardiens du temple, parce que non seulement la distribution utilise des logiciels libres, mais le fonctionnement associatif au niveau mondial de Debian cherche à appliquer les valeurs du libre. Bon, maintenant aussi chez Mageia, puisque nous ne sommes plus dirigés par une entreprise, hein, mais par une association. Mais je pense que c'est ça, les gardiens du temple, ça correspond très très bien à Debian.
Eh ben, merci, oui, effectivement, ça fait partie des choses qui sont très, qui sont vraiment au cœur de Debian. C'est, la philosophie du projet est très proche de la philosophie qui est à la base du logiciel libre. Je ne sais pas si tu as prévu d'en reparler après, Fred.
Alors ça dépendra évidemment du temps disponible. Et Debian est souvent la mère d'autres distributions plus spécialisées.
Oui, aussi. Oui.
Voilà, c'est pas une distribution un petit peu effectivement à part. Olivier et Charlotte sur Ubuntu.fr, qui en premier ?
Sur Ubuntu.fr ?
Enfin, sur Ubuntu. Excuse-moi.
Parce qu'on avait une version francophone d'Ubuntu, mais on a arrêté de la faire. Elle avait de différent que le fait que le français était la langue par défaut. Et très momentanément, on a désactivé des fonctionnalités très contestées dans la communauté, qui était la recherche dans Amazon.
Je n'avais pas prévu d'en parler, mais bon, c'est bien que
non, mais il n'y a pas de problème.
Alors, Ubuntu.
Il y a eu des... C'est ça qui est aussi la différence avec Debian, c'est que Ubuntu est relativement impur. Debian est la mère de Ubuntu. Pas la merde, là, j'ai dit la merde.
Olivier, excusez-moi,
on est à la radio. Non, c'est sans Debian, il n'y aurait pas d'Ubuntu. Et d'ailleurs, quand on nous demande comment contribuer à Ubuntu, généralement, on renvoie vers Debian. On dit contribuer à Debian, vous aiderez Ubuntu. Et je pense que Debian survivra à la fin du capitalisme beaucoup plus facilement qu'Ubuntu.
Voilà. Alors, je ne suis pas sûr que la fin du capitalisme, on ait le temps de le traiter dans l'heure de l'émission. Donc, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous donner la spécificité d'Ubuntu ?
Non, mais je n'avais pas prévu de rentrer complètement dans les cases que tu avais imaginées.
D'accord. Hein. Mais à ce moment-là, je vais demander à Charlotte, alors. Charlotte ?
Vas-y, je suis censée pas parler de la fin du capitalisme, là. Ah, non. Merde.
Peut-être plus dans ton ballot.
SOS. Non, Ubuntu, moi, je veux bien parler des mauvais côtés quelque part parce que faut pas hésiter, quoi. Mais bon, en fait, Ubuntu, pour beaucoup de personnes qui sont dans l'univers du logiciel libre, qui sont des libristes, c'est pas mal Canonical, en fait, qui est l'entreprise qui a créé, qui a lancé Ubuntu, disons, et qui prend pas mal de décisions, dont les petits boutons Amazon, qui sont là par défaut, et c'est ce genre de choses. Il faut entendre les critiques sur Ubuntu, et quand quelqu'un me dit avec un air, comme le disait Jean-Christophe sur Mageia, quand quelqu'un d'une autre distribution vient me voir en me disant « Ah, moi, je suis pas sur Ubuntu parce que machin, ben, c'est super cool pour toi, quoi. » Par contre, Ubuntu a cette raison d'être facile pour les débutants. C'est une bonne porte d'entrée, en tout cas, vers le monde des distributions libres.
Merci, Charlotte. Et très clairement, Ubuntu a joué un rôle considérable pour l'accès, la découverte du grand public au logiciel libre, à la fois par sa facilité d'installation, d'usage, à un moment où Debian n'était peut-être pas à ce même niveau-là, et aussi par les Ubuntu parties, dont on reparlera tout à l'heure, les événements, c'est-à-dire la communauté, l'accueil, etc. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose en lien avec le capitalisme ou Ubuntu ?
Non, c'était pour dire qu'effectivement, moi, si je suis sous Ubuntu et que je participe à l'association Ubuntu francophone, c'est essentiellement... parce que ça permet au grand public d'accéder au logiciel libre. Et c'est en ça que je trouve Ubuntu génial. Mais et que c'est plus facile de le faire avec Ubuntu qu'avec Debian ou Fedora ou Mageia, d'après moi.
Je suis coupé, mais je suis tout à fait d'accord avec ça.
D'accord. Alors, nous allons poursuivre notre échange après une pause musicale. Donc, nous allons écouter Lord's Mistake de l'album Not Kings par Candy Says. Et on se retrouve juste après.
We found truth like a fire. Lord's mistake. I am the Lord's mistake. The wind was drawn. There's a cold song.
Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Vous écoutez l'émission donc de l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous parlons actuellement des systèmes d'exploitation libre, donc avec mes invités Nicolas Drandrimont pour le projet Debian, Olivier Fraisse pour le projet Ubuntu, Charlotte Boulanger aussi pour Ubuntu et Jean-Christophe Monard avec nous au téléphone pour Mageia. Donc juste avant la pause musicale, ah oui, la pause musicale, c'est Lord's Mistakes de Candy 16, c'est en licence libre CC BY SA, donc partage dans les conditions à l'identique, et vous retrouvez la référence sur le site de l'April. Donc juste avant la pause, nous parlions un petit peu des différences entre les distributions Mageia, Ubuntu et Debian. Nous allons maintenant aborder le sujet, parce qu'évidemment, on a parlé des distributions, mais comment s'y mettre ? Parce que l'une des difficultés aujourd'hui du monde du logiciel libre, enfin, pas aujourd'hui, d'ailleurs, depuis très longtemps, c'est que le fait, quand on achète un ordinateur dans le commerce, il est très souvent préinstallé avec un système d'exploitation privateur, donc que ce soit Microsoft Windows ou macOS d'Apple. Et donc, assez souvent, on doit installer une distribution GNU Linux si on veut commencer à utiliser un environnement entièrement libre. Alors, de ce point de vue-là, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'installer des distributions GNU Linux par n'importe quelle personne ? Qui veut commencer ?
Moi, je veux bien en parler.
Ah, Jean-Christophe, vas-y.
Oui, parce que j'ai donc participé à beaucoup d'installations dans les install parties ou chez les particuliers. La plupart des gens n'installent pas Windows, donc effectivement, ils ne savent pas très bien installer un système d'exploitation. Donc il vaut mieux quand même avoir quelqu'un avec soi, ne fût-ce que pour être rassuré psychologiquement. Bon, quelques personnes douées peuvent le faire uniquement en lisant des conseils sur le web ou dans des livres, des revues, qui sont très bonnes, mais en général, il vaut mieux quand même être accompagné parce qu'il y a des questions de vocabulaire qu'on ne sait jamais poser, et là, on gagne quand même beaucoup de temps. Enfin, c'est le conseil que je donnerais. Et naturellement, essayer de contacter une association d'utilisateurs de logiciels libres. Il y en a à peu près partout en France maintenant.
Nicolas Dandrimont.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement à la portée de tout un chacun de pouvoir installer une distribution avec une distribution GNU Linux. Par contre, l'aspect communautaire est super important. Et l'avis de la communauté et faire en sorte que les gens comprennent que dans le logiciel libre, il n'y a pas que un outil technique qui est super utile, qui est un système d'exploitation, mais qu'il y a aussi une philosophie, des valeurs, et puis des gens qui sont derrière ces projets. C'est super important. Et du coup, les initiatives comme les premiers samedis du libre de Paris Nux, qui sont des install parties, en fait.
Alors, les premiers samedis donc, de Paris Nux, qui est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres de la région parisienne. Donc, ça se passe à la Villette chaque premier samedi du mois. Et une install party, c'est une fête d'installation, ou en tout cas un événement dans lequel il y a des personnes qui ont certaines compétences un peu avancées sur l'installation de logiciels libres et de distribution libre, qui aident d'autres personnes à se faire installer, donc accompagnent ça, des personnes débutantes à l'installation de distribution libre.
À la Cité des Sciences, je précise. Tu as dit à la Villette.
Ah, ouais. À la Villette, donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Port de la Villette, à Paris.
Avec Carrefour Numérique.
Et ce genre d'événements existe dans d'autres évidemment régions et on les retrouve sur le site de l'agenda de libre.
Oui, bien sûr. Et puis ces événements-là, ça fait aussi un point un peu fixe, un point focal où les gens qui ont un système libre sur leur machine peuvent venir poser leurs questions. Ça fédère vraiment les communautés. Je sais que par exemple, je reprends l'exemple de la Villette, il y a des gens qui installent des Ubuntu, des Mageia, des Fedora. D'autres distributions diverses et variées quoi. On est vraiment tous contents de s'entraider en fait et puis d'aider les gens à se libérer.
Charlotte, toi qui participes, alors je laisse le temps d'allumer son micro, toi qui participes aux Ubuntu Party, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoire de devenir une Ubuntu Party pour se faire installer Ubuntu ? C'est sans doute un bon conseil. Voilà, oui.
Elle organise.
Elle organise, c'est vrai. Mais...
C'est une expression prêchée pour sa paroisse, un truc comme ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne une Ubuntu Party ?
Alors, une Ubuntu Party, il y a une install party et il faut avouer que c'est l'événement central. Une install party, donc vous l'avez compris, on aide les gens à installer un système d'exploitation libre sur leur machine. C'est ce dont parlait Nicolas, je crois, ou Jean-Christophe, je ne sais plus.
Les deux.
C'est magnifique. Mais oui, c'était Jean-Christophe parler qu'on peut avoir besoin d'aide pour se rassurer, et c'est exactement ça. Après, une Ubuntu party, c'est un peu particulier par rapport au premier samedi du libre, parce qu'il y a aussi des conférences à côté qui sont filmées. Des ateliers aussi où on met des gens devant un ordinateur et puis on va dire bon ben là on va apprendre comment prendre en main son environnement Ubuntu par exemple et plein d'autres sujets
et ça dure deux jours
complet sauf s'il y a des manifestations, ça dure un seul jour dans ces cas-là. Oui. Rapport à la dernière Ubuntu Party,
Charlotte fait référence à l'annulation de la dernière Ubuntu, enfin du samedi de l'Ubuntu Party suite à la fermeture des lieux culturels à Paris pour les manifestations Gilets jaunes.
C'est ça. Voilà. Et pour clarifier, avec Olive, on fait partie de Ubuntu FR. C'est pas.
Explique-nous ce qu'est Ubuntu FR.
Oui, ça peut être bien. Ouais. C'est l'association francophone des utilisateurs d'Ubuntu. C'est des utilisateurs, quoi. Alors, il y en a qui contribuent. Pas tous. Moi, j'ai jamais contribué à la distribution Ubuntu. J'ai uniquement contribué à l'association Ubuntu FR en faisant notamment des designs, des t-shirts, des sites internet de temps en temps. Mais la communauté, et il faut distinguer la communauté Ubuntu FR de ceux qui font la distribution. Est-ce que Olive, tu es d'accord avec moi ?
Oui, c'est ça. Dans Ubuntu FR, donc Ubuntu francophone, il y a très peu de contributeurs au code de Ubuntu et des logiciels qui composent Ubuntu. C'est essentiellement les 200 000 inscrits du forum Ubuntu FR et les organisateurs et les bénévoles des Ubuntu parties. Ouais.
Alors, avant de passer la parole à Jean-Christophe et Nicolas sur la partie justement forum, communauté, c'est important ce point que tu évoques, Charlotte, c'est qu'on pense que contribuer au logiciel libre, ça passe que par la contribution au code. C'est une des contributions évidemment essentielles parce que sans logiciel libre, sans contribution au code, il n'y aurait pas forcément de logiciel libre. Mais on peut contribuer, comme tu le fais, Charlotte, toi, par du design, parce que toi, à titre professionnel, tu fais du design. D'ailleurs, je précise, parce que je ne l'ai peut-être pas dit au début, en fait, que toutes les personnes qui sont invitées aujourd'hui sont des bénévoles dans chacun des projets. Charlotte contribue par du design, tu l'as fait pour les t-shirts et puis pour les pour les plaquettes. On peut contribuer en écrivant de la documentation dont faisait référence tout à l'heure Jean-Christophe Monard de Mageia pour expliquer aux personnes débutantes comment installer du logiciel libre ou comment utiliser tel logiciel. On peut faire de la traduction, etc. Je crois que Nicolas, c'est là-dessus que tu voulais réagir
ou... Oui, je suis pas du tout d'accord avec Charlotte qui dit « Non, je ne contribue pas à Ubuntu, je fais que du design pour Ubuntu FR ». Ça n'a aucun sens, quoi. C'est, les contributions comme ça de... Qui permettent d'animer et de faire grandir la communauté, elles sont critiques à la vie de nos projets. Quoi. Et, oui.
En plus, c'est le seul avantage de Ubuntu, c'est son design. Donc,
Pourtant, j'ai essayé de bien préciser la distribution, mais c'est vrai qu'indirectement, du coup, les gens dans la communauté, etc. Bon.
Jean-Christophe, justement, la communauté Mageia, je crois qu'il y a des forums Mageia en ligne, il y a des listes de discussions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît?
Je crois que, comme la plupart des projets libres, et on parle des distributions, j'aurais placé un petit mot en plus. Parfois, il nous arrive tous d'installer des logiciels libres sous Windows, qui est une première étape avant de passer aux distributions.
Tout à fait.
Et pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'effectivement, j'ai vu un chiffre une fois, précisément, je ne sais pas, mais que la moitié du travail d'une distribution, ce sont des non-informaticiens. C'est effectivement la traduction, la documentation, c'est faire connaître, et, parce que cette distribution, elle n'est pas autiste, elle ne va pas se limiter à être utilisée par ceux qui la font, enfin la plupart du temps, en tout cas pour Ubuntu, pour Mageia et pour d'autres. Alors, pour Mageia, effectivement, nous avons des listes à peu près dans toutes les langues, toutes les langues utilisateurs, hein, ça en fait beaucoup. Des forums IRC, des blogs qui permettent donc les remontées, les difficultés, parfois aussi les félicitations, les remerciements aux contributeurs informaticiens. Et donc, effectivement, toute cette communauté internationale, en grande partie française, mais pas exclusivement, pas du tout, donc c'est pas mal de Brésiliens, d'Allemands, ainsi de suite. Donc, toute cette communauté amène ses contributions, donc qui sont pas du code pur. Chacun à son tour, à un moment de sa vie, peut contribuer et profiter. Donc c'est vraiment... Je me souviens, un jour, Michel Rocard avait dit qu'un grand avantage du logiciel libre, c'est qu'on a intérêt à ce que l'autre réussisse. Et je pense que, en tout cas pour moi, philosophiquement, c'est une chose importante dans le libre. Ça permet donc plus de partage, de solidarité, on va dire même d'amour chrétien entre les êtres humains. Hein. On a intérêt à ce que l'autre réussisse, et c'est pas de la jalousie, c'est l'autre... fait quelque chose, fait un joli dessin, une couverture de CD ou un peu de documentation, tout le monde va en profiter, même au-delà de la distribution. Il y a des contributions à telle ou telle distribution qui vont profiter aux autres.
Hein. Oui, tout à fait. Il y a des contributions effectivement croisées. Donc merci Jean-Christophe. Ça me fait penser. J'aurais juste abordé deux petits points où parler pas. Je ne sais pas qui voudra en parler parce que. Dans l'arrivée vers les distributions de logiciels libres, il y a deux points qui me paraissent intéressants. C'est la notion de double amorçage, c'est-à-dire qui existe encore aujourd'hui par quelqu'un qui veut garder, par exemple, son Microsoft Windows. Et la deuxième notion que je voudrais que vous explicitiez, c'est les CD ou clés USB dites live, c'est-à-dire autonomes.
Alors, oui.
Nicolas Dandrimont, Debian.
Oui, du coup, effectivement, si on veut faire un premier pas vers le logiciel libre sans sauter dans le grand bain, effectivement, la première solution, Jean-Christophe en parlait, c'est d'installer des logiciels libres sur son système d'exploitation existant. Il y a beaucoup de gens qui le font, notamment installer LibreOffice ou Firefox sous Windows, c'est un grand classique. Après, si on veut tester les systèmes d'exploitation GNU Linux, le plus simple, effectivement, c'est de prendre une clé USB. Qui va avoir le système d'exploitation dessus. On va pouvoir la démarrer et la tester sans rien modifier sur son ordinateur. Donc ça permet effectivement de tester l'environnement de bureau, de voir si on est confortable ou pas avec le système. Et après, une fois qu'on est prêt à sauter le pas et avoir une installation fixe sur son ordinateur, on peut effectivement faire de la place à côté de son système d'exploitation existant. Donc on garde son système d'exploitation existant et on ajoute en double amorçage la distribution Linux qui nous a fait plaisir.
La distribution GNU Linux ?
Oui, Linux, GNU Linux, GNU KFreeBSD.
Et donc, il faut préciser qu'au démarrage de la machine, ensuite, il y aura un menu qui permettra de choisir le système d'exploitation qui démarrera.
Effectivement, voilà, on va avoir quelques secondes au démarrage de la machine pour choisir sous quel système on veut démarrer.
Jean-Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point ou Olivier ?
Oh ben, oui, bon, la plupart des distributions grand public maintenant ont des CD-ROM, enfin plutôt des DVD maintenant autonomes. Mais je voudrais souligner donc un apport de Debian qui est fait par donc un professeur allemand, le Herr Dr. Knopper, qui nous fait la fabuleuse Knopix, que j'ai utilisé très souvent pour des démonstrations ou pour tester du matériel. On va, si je veux acheter un ordinateur ou quand je le récupère à la déchetterie, ce qui coûte beaucoup moins cher, je le teste d'abord avec une Knopix ou un CD-ROM live. Et au passage, une chose pour parler du logiciel libre, toutes nos distributions, certains systèmes d'exploitation propriétaires passent beaucoup de temps à observer ce que nous faisons et à chercher à savoir s'ils nous en donnent la permission. Et donc, ça veut dire beaucoup de puissance de calcul. Ce qui fait que très régulièrement, sur des ordinateurs, bah, disons-le, que je récupère, qui ont 10 ans d'âge, je retire le système Windows, j'installe Linux, et il marche aussi vite qu'un système Windows récent. Et ça, c'est un grand avantage. On peut adapter Linux à aussi bien des super serveurs cas des ordinateurs de récupération, ce qui leur évite de partir ensuite dans des déchetteries où ils seront plus ou moins bien traités.
Alors, voilà. Merci Jean-Christophe, parce que ça me fait penser à un point suivant, et on reviendra au point précédent sur les distributions, parce que je voudrais quand même que vous parliez rapidement des environnements de bureau, parce que ça me semble être une des principales différences au niveau des distributions. Là, on a parlé d'installation d'un système libre sur un ordinateur, mais quid de la personne qui veut effectivement, enfin qui veut se procurer une machine avec un système préinstallé. Donc, je voudrais déjà citer, et je vous laisserai proposer vos propres solutions, un site qui me paraît très important et qui est en référence sur le site de l'April, c'est le site de bonvendeurdordinateur.info. Donc, c'est bon-vendeur-ordinateur.info. C'est un site qui existe depuis très longtemps, sur lequel vous retrouvez en fait des vendeurs qui vendent, alors ça peut être des boutiques en ligne, des boutiques sur rue, hein, qui vendent des ordinateurs alors soit nus, c'est-à-dire sans système d'exploitation, et donc vous ne payez pas la licence Microsoft, soit des systèmes préinstallés avec des versions libres des distributions GNU Linux, donc ça peut être Ubuntu, Debian. Tout à l'heure, à l'instant, Jean-Christophe parlait des vieux ordinateurs. Moi, à titre personnel, je pense qu'on est plus dans ce cas-là. À la maison, j'ai des ordinateurs, des laptops, donc des ordinateurs portables qui datent de 2010 pour mes enfants, que j'ai acheté donc, chez un de ces revendeurs qui est cité, qui est en l'occurrence Ecoder, donc, qui est une structure qui fait le recyclage d'ordinateurs, qui fait travailler des personnes en situation de handicap et en reprise d'emploi. Alors, il y a des versions avec Microsoft Windows, mais aussi des versions avec Ubuntu. Donc j'en ai acheté. Alors, je suis désolé. Ensuite, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai installé Debian à la place. Et ces machines fonctionnent très bien. Mes enfants les utilisent au quotidien. Un autre de mes serveurs est sur une autre distribution, alors libre, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est Triskel. Mais en tout cas, voilà, ce site est important, donc qui permet d'avoir l'ordinateur soit préinstallé avec un système libre, soit éventuellement nu. Est-ce que vous avez d'autres pistes de réponse là-dessus?
Moi, absolument pas.
Non.
Alors,
Jean-Christophe Monard, et après Nicolas.
Un petit conseil. J'ai toujours été beaucoup plus satisfait d'aller chez des assembleurs ou des petits revendeurs, des artisans qu'on trouve dans les villages, dans les petites villes, qui vous fabriquent votre ordinateur ou qui, enfin, ils ne le fabriquent pas, mais ils assemblent ce qu'il faut, plutôt que dans les grandes surfaces. Là, de toute façon, en plus, on aura beaucoup de mal à se faire rembourser Windows. Parfois, ça coûtera plus cher de se le faire rembourser si on veut le retirer. Et on est souvent avec des machines qui sont très captives, très propriétaires. Voilà, donc j'évite les grandes surfaces.
Alors, tout à fait. Et sur le site, alors, pendant un de nos invités se mouche. C'est une radio où les micros sont très puissants. Donc, quand quelqu'un se mouche, ça s'entend.
Je jure que j'ai coupé son micro.
Ah, bon, non. Bah, en tout cas, ça s'entend via les autres micros. Et donc, sur le site bonvendeurdordinateur.info, vous trouvez des références de vendeurs en ligne et de vendeurs dans les différentes régions. Je citais Ecoder parce qu'ils sont en région parisienne, mais ils livrent. Et il y a des revendeurs, effectivement, sans doute dans la plupart des régions françaises qui permettent de récupérer des machines recyclées, voire des ordinateurs nus. Alors par rapport aux licences Microsoft Windows qu'on appelle la vente forcée, malheureusement, alors c'est un sujet qu'on abordera sans doute un jour, malheureusement la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que ce n'était pas une pratique déloyale en toutes circonstances, alors qu'en fait c'en est une, parce que concrètement on ne peut pas se faire rembourser ou se faire désinstaller Microsoft Windows, alors qu'il existerait des solutions techniques, car tout à l'heure quand on parlait du double amorçage, une solution technique serait simplement que les fabricants préinstallent plusieurs systèmes et lors de l'achat de l'ordinateur, avec un code d'activation qui serait par exemple payant pour Microsoft Windows ou un coût raisonnable pour d'autres systèmes, permettrait d'activer tel ou tel système. Bon, c'était une petite parenthèse. Je crois que Nicolas, tu voulais réagir sur ce point-là.
Non, pas...
Alors, complétez, vas-y.
J'ai, Ouais, non, je pense à des fabricants. Là, c'est plus sur du matériel neuf, du coup, qui poussent des solutions libres. Je pense à Librem, par exemple, qui est un fabricant de matériel, qui fait des ordinateurs portables et qui commence à faire des téléphones aussi, qui tourne sur une distribution qui s'appelle PureOS et qui est une dérivée de Debian. PureOS, d'ailleurs, emploie un certain nombre de développeurs Debian pour faire leur travail dans Debian. Et donc ça, en plus d'avoir du logiciel libre, on a du matériel qui est un peu meilleur au niveau du respect de la vie privée de ses utilisateurs. Ouais, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer d'avancer sur ces questions.
Peut-être un peu plus cher comme matériel, je crois.
Alors oui, ça a un coût que...
La liberté a un coût.
Malheureusement, oui, c'est pas des produits de masse encore aujourd'hui. Donc c'est des produits pour le moment. Hein, enfin voilà, il y a bon espoir pour que ça se généralise. Mais aujourd'hui, c'est effectivement des produits qui sont plutôt sur le haut de gamme au niveau prix. Quoi.
Et leur téléphone Purism Librem 5 tournera donc sur PureOS, effectivement, mais pourra aussi faire tourner Ubuntu Touch. Je le précise parce qu'on présente souvent la version téléphone d'Ubuntu comme abandonnée, mais ce n'est pas totalement le cas grâce à la fondation qui s'est montée autour de ce projet, Ubuntu Touch.
It's alive.
Et yes. Librem, on en a parlé lors de notre sujet sur la téléphonie mobile libre, que le téléphone mobile est annoncé pour avril-mai. Et par rapport aux autres fabricants de téléphonie qui ont un système, alors soit iOS pour Apple, soit Android, l'idée du Librem, c'est de partir d'une distribution, on va dire générique, la distribution mère de toutes les distributions, c'est-à-dire Debian, de l'adapter et d'en faire PureOS, ce qui permettrait aussi de régler pas mal de problèmes techniques liés en fait à Android, pas mal de problèmes de vie privée aussi. Donc je vous invite à réécouter le podcast qui est disponible sur le site de l'April. Alors je vois que le temps avance, je voudrais revenir sur un petit sujet qui me paraît être une différence souvent dans les entre les distributions, et je vais solliciter Charlotte sur cette question-là, mais aussi évidemment les autres personnes. Tout à l'heure, Nicolas disait qu'une des premières étapes, et Jean-Christophe, c'était d'installer des logiciels libres sur son environnement privateur, parce qu'ensuite, après, on les retrouve sur l'environnement libre. On retrouve VLC, Firefox, LibreOffice. Par contre, un des gros changements, c'est l'environnement de bureau. C'est-à-dire que là, l'environnement de bureau, tout à l'heure, c'était Olivier Fraisse qui parlait de KDE, qui est un environnement de bureau, GNOME, qui est un autre environnement de bureau, moi, j'ai un autre environnement de bureau. Ça me paraît être un changement vraiment important pour les personnes qui débarquent d'un environnement différent, Windows ou macOS. Dans ton expérience, Charlotte, est-ce que c'est un point bloquant? Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous orientez les personnes vers tel ou tel bureau?
Alors, c'est vrai que souvent, quand on dit aux gens, alors, on vous a installé Ubuntu et là, on vous fait un atelier GNOME, GNOME qui est l'environnement de bureau, il y a un peu une incompréhension de temps en temps sur, attendez, c'est quoi GNOME, c'est quoi Ubuntu, tout ça. Et là, on doit expliquer que ce que Ubuntu, ça, vous pouvez l'avoir avec un environnement de bureau, donc... Là, les touches, elles sont comme ça et tout. Et puis là, c'est en bas à gauche pour ouvrir tel menu, alors que l'autre, c'est en haut à droite, etc. Enfin, c'est des petits changements pour un libriste, quelqu'un qui va voir plutôt les grosses différences entre les distributions. Mais pour quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, une personne âgée qui a déjà du mal à, je ne sais pas, changer son fond d'écran, je dis ça parce que j'en connais, c'est assez important. Moi, de mon expérience, quand quelqu'un veut installer Ubuntu et c'est sa première utilisation, je lui conseille d'utiliser ce qui est par défaut dans la dernière version. En ce moment, c'est GNOME, par exemple. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à la moindre difficulté, les tutoriels les plus récents que la personne va voir seront souvent avec cet environnement de bureau-là. Après, voilà, il y en a qui me disent « Ah, mais oui, moi, je fais du montage vidéo, je fais du graphisme, quel environnement me conviendrait le plus ? » Et là, si la personne est à l'aise, je lui dis, je n'hésite pas à la rediriger vers Kubuntu.
Ubuntu Studio.
Ubuntu Studio, que moi, je n'aime pas personnellement. Mais...
Merci Charlotte. Est-ce que Jean-Christophe, tu vas ajouter quelque chose sur cet aspect bureau, environnement de bureau ?
Alors, il y a effectivement un phénomène que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est qu'autrefois, il y avait donc le DOS, et puis on tapait Win, et puis il y avait Windows 3.1 qui apparaissait. Donc pour cette génération-là, parfois, on peut montrer qu'il y a plusieurs gestionnaires de fenêtres, plusieurs Windows pour Linux, tandis que Windows n'en a qu'un seul. Et bon, la liberté fait parfois un petit peu peur. Alors, au début, moi, ça dépend moi beaucoup de la puissance de l'ordinateur. Quand c'est vraiment une machine ancienne, peu puissante, pour ASWM par exemple, je ne sais pas si je le prononce bien, il y a des environnements bureaux qui sont très légers, XFCE est quand même aussi assez léger.
Oui.
Sinon, c'est vrai que par défaut, souvent, sous Mageia, nous mettons en place KDE. Là, les gens s'adaptent assez rapidement en général, parce que ça ressemble un petit peu à Windows, il y a un bouton en bas à gauche, ça marche assez bien. Effectivement, bon, c'est une question parfois pour les gens. Au bout d'un certain temps, ensuite, ils vont en essayer plusieurs, les environnements de bureau, ils verront que certains sont plus pour les artistes de l'informatique ou plus faciles à utiliser. Il me semblait, à propos d'Ubuntu, que la version pour la vidéo, la différence, c'était surtout le noyau qui permettait du traitement en temps réel plus que l'interface graphique.
Oui, c'est en effet. Mais il y a aussi un changement d'interface graphique de ce dont je me souviens de Ubuntu Studio, mais j'avoue que je ne l'ai pas testé récemment. Il me semble que c'est sous KDE, hein, Ubuntu Studio.
Alors, moi, j'avais essayé...
Mais effectivement, il y a le noyau real-time. Avec voilà.
Autant pour moi.
Toi, tu avais essayé Ubuntu Studio, Charlotte ?
Alors non, KUbuntu, il me semble. Enfin, en fait, c'était encore quelque chose d'autre.
KDE Live.
Peut-être.
Il était par-dessus. Le logiciel de montage.
De montage vidéo.
Ouais.
Alors, le temps passe vite. Il va nous rester à peu près 5 minutes sur ce sujet. Avant de faire un tour de table final, j'ai une question. Ben, on a parlé de distribution libre. Mais en fait, il n'y a pas forcément que des logiciels libres installés sur les distributions. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point donc, sur cette séparation entre les logiciels libres et non libres sur les distributions et aussi par rapport aux critères donc, de la Fondation pour logiciels libres qui a émis un certain nombre de critères pour dire que telle distribution n'installe que du logiciel libre, donc en allant jusqu'au BIOS, c'est-à-dire le petit bout de programme qui démarre, qui s'exécute au démarrage de l'ordinateur avant même le système d'exploitation. Quelle est votre politique par rapport à cette information des personnes qui l'utilisent au niveau de la séparation logiciel libre, logiciel privateur? Je vais commencer par peut-être par Ubuntu.
Ouais. Vas-y. Alors moi, je pense que c'est très bien qu'on puisse installer une distribution GNU Linux comme Debian sans la moindre trace de logiciel privateur. Sans le moindre driver pollué,
pilote de périphérique.
Sans le moindre pilote pas libre, c'est nécessaire que ça existe. Après, je pense que si on veut diffuser des solutions libres au plus grand monde, il faut accepter des compromis comme le fait Ubuntu avec des drivers Wi-Fi notamment, qui ne sont pas libres dans la version la version d'installation. En fait, quand tu installes Ubuntu, il te permet de te connecter à ton Wi-Fi avec des pilotes pas libres pour pouvoir faire l'installation correctement. Mais surtout, après, il t'informe. Une fois que tu es installé, il te dit au fait, tu veux des drivers ou tu veux pas Internet. Voilà.
D'accord.
Ça me semble super nécessaire aussi de faire ce genre de compromis. Après, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on va parler des distributions payantes qui sont libres, mais payantes comme Red Hat ?
Non, parce que là, on s'adresse vraiment à la distribution directement accessible pour le grand public.
Parfait,
on fera un deuxième sujet de toute façon sur cette distribution. On abordera d'autres sujets, dont les distributions pour entreprises, etc. Oui, tout à fait.
Et avant de passer la parole à Nico, justement, il me semble que Debian aussi a touché à des pilotes pas libres, fut un temps, mais ce n'est peut-être plus le cas.
Alors, Nicolas Dandrémont pour Debian, et après Jean-Christophe.
Oui, effectivement, aujourd'hui, la distribution par défaut de... si on fait une installation par défaut de Debian, aujourd'hui, on a 100% de logiciels libres. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, notamment au niveau du noyau Linux, pour séparer la partie noyau logiciel et tous les petits micro-logiciels qu'on va mettre dans divers périphériques pour qu'ils puissent fonctionner, qui sont, eux, justement, pas forcément libres. Et donc ça, ce travail-là, il a été pas mal poussé par Debian. On a la possibilité, par contre, de effectivement ajouter les pilotes de périphériques et les micro-logiciels qui sont nécessaires pour le fonctionnement du matériel, qui sont, du coup, des logiciels qui ne sont pas libres. On ne met pas trop ça en avant sur nos pages web, sur notre documentation. Par contre, c'est des choses qui sont vraiment disponibles publiquement et qui sont assez proches, en fait. Enfin, ils sont dans la même archive que les logiciels libres. Et c'est d'ailleurs le reproche qui nous est fait par la Free Software Foundation.
Pour la Fondation pour le logiciel libre.
Oui. C'est que la partie non libre de Debian n'est pas assez bien séparée de la partie libre. Voilà, c'est un peu la position orthodoxe de la FSF là-dessus, quoi.
Jean-Christophe Monard pour Mageia, quelle est la politique de Mageia par rapport donc à cette séparation logiciel libre ou cette information?
Alors bon, fondamentalement, donc tous ces paquets de logiciels sont séparés sur différentes étagères, pour prendre un terme commun. Alors il y a des étagères pour les logiciels libres, des étagères pour les logiciels qui ne sont pas libres, et là on prévient au moment de l'installation. Alors c'est vrai que au début j'étais très puriste, je ne les mettais pas, mais pour le grand public, j'ai vite compris qu'effectivement, on peut les mettre comme étape intermédiaire. Bon, moi, je ne les mets pas pour moi. Et il y a aussi, on va dire, une étagère pour les logiciels qui sont gratuits ou libres, mais qui posent des problèmes dans certains pays. Parce que là aussi, les problèmes de brevets logiciels, par exemple, font que certains logiciels sont utilisables dans certains pays et pas dans d'autres. Donc, on a des miroirs, hein, qui en fait sont des espèces d'étagères ou tiroirs où on range tous ces paquets de logiciels. Et à l'installation, bon, il y a un avertissement. Est-ce que vous voulez installer ces logiciels non libres aussi? Mais bon, c'est vrai que c'est un peu discret et c'est surtout pour des installateurs avertis. Je dirais quelqu'un du grand public, bah, il va faire OK, il les aura. Mais parce qu'on sait bien que pour les débutants, bah, c'est nécessaire. Voilà.
D'accord. Alors, cette partie va se terminer. Je vais vous laisser chacun et chacune une minute si vous avez quelque chose à ajouter. Donc, bah, Jean-Christophe, comme tu avais la parole, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce sujet des distributions GNU Linux?
Eh ben, je trouve excellent qu'il y ait beaucoup de distributions de Linux. Et bon, là, parce qu'on n'a pas peur d'aborder des sujets qui fâchent. Quand le fondateur de Ubuntu a dit publiquement qu'il voulait qu'on remplace Linux par Ubuntu, c'est vrai que ça m'a beaucoup énervé. Et c'est pour ça aussi que je n'utilise pas Ubuntu, même si c'est une distribution qui est tout à fait techniquement au point. Ça, effectivement, sa facilité d'utilisation est très bonne. Donc, utiliser des logiciels libres, bah, c'est participer à un monde de liberté et d'entraide. Et c'est ça le plus important. Et Mageia est une distribution communautaire, associative, qui, quelque part, procède de la liberté du côté non marchand de Debian, mais aussi avec une facilité d'utilisation très grand public que j'apprécie tous les jours.
Ben merci Jean-Christophe. Alors Olivier, pareil, Olivier Fraisse, en moins d'une minute.
Ouais, je ne me souviens pas de cette parole de Mark Shuttleworth sur Linux, qui devrait être remplacé par Ubuntu, mais je ferai des recherches. Apparemment, Nico non plus ne s'en souvient pas.
Mark Shuttleworth, qui est le
fondateur de Canonical, qui sponsorise Ubuntu, et qui est donc le créateur d'Ubuntu, en fait. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que... N'hésitez pas à tester, j'invite toutes les personnes qui souhaitent avoir un peu plus de liberté sur leur ordinateur, avoir moins de virus, voire pas de virus du tout, hein, c'est un débat qu'on peut avoir, mais à essayer Ubuntu ou Debian ou Fedora ou Mageia ou autre, hein, mais faut tester.
Voilà. Nicolas Dandrimont pour Debian.
Oui, je pense qu'effectivement, les tester, c'est les adopter. Et surtout, rapprochez-vous des structures locales, de vos groupes d'utilisateurs, de logiciels libres locaux, que ce soit à Paris, par Linux, ou en région, ou ailleurs dans le monde. Parce que le point clé du logiciel libre, c'est la communauté. Et sans que ce soit les distributions ou le reste de la communauté du logiciel libre, c'est vraiment les gens qui constituent ça, qui sont la clé, quoi.
Et ces groupes d'utilisateurs, l'annuaire, vous le trouvez sur le site de l'agenda du libre. Charlotte Boulanger, pour conclure également.
Bah un petit mot, si jamais vous êtes séduit par l'orthodoxie de, c'est ça qu'on a dit, de la Free Software Foundation, la fondation pour le logiciel libre. Ils ont une page qui liste les distributions agréées par la Free Software Foundation. Donc vous pouvez aller faire un tour et en essayer une si vous avez un cœur de libriste pur.
Bon,
et aucune de nos distributions dont on a parlé n'est présente sur cette page-là.
Alors, comme l'émission est très bien préparée, cette page de référence est déjà sur le site de l'April.
C'est génial.
Il y a les deux pages, en fait. Il y a la page qui cite les distributions reconnues comme 100% logiciel libre par la Fondation pour le logiciel libre. Donc, d'où la principale est sans doute la distribution qui s'appelle Triskel. Alors, ça me fait penser qu'il y a une société qui s'appelle Minifree, qui je crois est basée en Angleterre, qui vend des laptops, des ordinateurs portables préinstallés avec Triskel. Et la deuxième page qui est citée, c'est pourquoi certaines distributions ne sont pas référencées comme distribution 100% logiciel libre par la Fondation pour le logiciel libre. Donc vous verrez pourquoi Debian, mais tout à l'heure Nicolas Dandrimont l'a expliqué. C'est la séparation effectivement du paquet, on va dire, libre et non libre. Évidemment, il y a beaucoup d'autres distributions dont on aurait pu parler. Il y a aussi d'autres familles de systèmes d'exploitation, notamment nos amis de BSD, hein, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD. Voilà, c'était une première introduction sur les distributions GNU Linux. Avant de changer de sujet, mais en gardant quand même deux des intervenants, nous allons écouter une pause musicale. Le morceau s'appelle Passagère de Captain. Et on se retrouve juste après. De retour dans l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Libre à vous, c'est l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Juste avant la pause musicale, nous parlions des distributions GNU Linux avec plusieurs personnes invitées et deux d'entre elles sont restées en studio parce que le sujet suivant les concerne également. Donc Nicolas Dandrimont de Debian et Olivier Fraisse d'Ubuntu FR, donc la communauté Ubuntu. Nous allons parler de la boutique en ligne en vente libre qui met donc à disposition des produits de sensibilisation pour des projets libres, des associations libres. Donc, qui veut déjà commencer par nous présenter succinctement, nous présenter simplement la boutique en vente libre.
Alors, je ne sais plus.
T'es pas branché, attends.
Alors, je ne sais plus en quelle année on a lancé ça. C'était Framasoft.
En 2009.
Et Ubuntu, voilà, en 2009. Donc, c'était l'année où c'était vraiment la folie. On faisait des Ubuntu parties avec 5000 personnes, tout ça. Et Framasoft avait une Framaki. C'était une clé Ubuntu avec des logiciels libres pour Windows et pour Ubuntu. Donc, il y avait, tu pouvais démarrer sur la Framaki et tu avais les mêmes logiciels sur Ubuntu et pour Windows. Et donc ça, c'était un partenariat Ubuntu FR Framasoft et on avait du coup, par la même occasion, lancé cette boutique en ligne qui permettait d'acheter les goodies de Framasoft et les produits de Ubuntu FR comme des t-shirts, des badges, des trucs, des tours de cou et des dons. Voilà, on pouvait faire des dons. Et après, du coup, on s'est dit, on va en faire profiter d'autres assos. Et alors, du coup, j'ai pas du tout l'historique en tête, mais assez rapidement, l'April a rejoint le mouvement. Mais je crois que c'était pas. Il y a eu d'autres gens avant l'April, mais.
Debian France aussi est rentré assez tôt en fait dans le vente libre.
Ouais.
On avait pas mal de
goodies,
ouais, de t-shirts, de
sweatshirts, de produits dérivés,
voilà, avec la magnifique spirale Debian.
Ou cadeaux publicitaires, on peut dire aussi pour goodies, même si personne n'aime pas ce terme.
Et que c'est pas des cadeaux.
C'est pas des cadeaux, c'est de la publicité.
Du coup, c'est compliqué.
C'est pas des cadeaux.
On va appeler ça goodies, ça vous va.
Surtout pour les gens qui s'en occupent, c'est pas des cadeaux. Mais
ouais. Il y a la Mouette aussi, ouais, qui nous a rejoint.
Ah oui, la Mouette, c'est l'association francophone qui porte LibreOffice aujourd'hui.
Ouais. Notamment avec leur t-shirt.
Notamment LibreOffice, c'est les suites bureautiques libres. Et l'April, donc, c'était en 2012. Donc au bout de 3 ans. Donc 4-5 associations au début. Ça permet aussi de mutualiser pour les structures les coûts. Par exemple, tout à l'heure, à l'instant, tu parlais des dons. Forcément, quand on fait des dons, notamment par un site bancaire, on paye des frais. Et puis, ça nécessite des compétences pour mettre en place. Donc là, ça permet aussi pour les associations de mutualiser leurs coûts.
Ouais, le coût humain aussi. Hein, et surtout,
le coût humain aussi, plus important.
Il y a la maintenance d'un site, donc
c'est
un logiciel libre,
hein,
la boutique en ligne. On a utilisé plusieurs outils, mais aujourd'hui, c'est PrestaShop. Avant, c'était du Drupal.
Drupal.
Drupal, oui, c'est ça du coup.
Pense aux personnes qui écoutent, qui vont chercher sur un moteur de recherche Drupal.
Bah, ils vont trouver. Surtout s'ils utilisent le même moteur de recherche que tout le monde. Excuse-moi.
C'est un DuckDuckGo, c'est ça?
C'est ça, oui. Non, justement.
Non, vas-y, poursuis.
Oui, je poursuis. Donc, PrestaShop, c'est bien sympa, c'est assez facile à mettre à jour et tout. Mais si chaque association dont on va donner la liste incessamment sous peu avait un PrestaShop à maintenir, ce serait, il y en aurait forcément qui auraient plusieurs années de retard. Parce que dans toutes les assos, on est motivé un jour pour monter une boutique. Et puis, qu'est-ce qui va rester 3 mois après? Est-ce que le bénévole qui a monté ça est encore là? Est-ce que quelqu'un a vraiment envie de s'en occuper? Est-ce que quelqu'un a les codes d'accès? C'est dans les petites assos, parce qu'on est toutes des petites assos, sauf Debian, qui est énorme.
Non, humainement, on est toutes des petites assos.
Même Debian France, en tout cas, au niveau bénévole, on est tout petit aussi. Ouais. Quoi.
Même l'April qui a des salariés, je me souviens, comme j'étais au conseil d'administration à l'époque, on n'était pas chaud pour maintenir une boutique. En fait, on avait une boutique, on ne savait même pas comment elle fonctionnait.
Oui, parce qu'on n'a pas de salariés qui s'occupent de la partie technique. Le système d'information est maintenu par les bénévoles. Et c'est vrai que maintenir un site, alors tu parlais de Drupal. Drupal, c'est une activité à part entière de maintenir un Drupal quand il change de version. Donc, après, il y a des sites qui sont plus simples comme Spip ou autre, mais bon.
Et après, il y a aussi l'aspect communication. Il faut faire la pub de chaque boutique. Chacun fait la pub de sa boutique, c'est du travail qui est inutilement multiplié.
Donc ça permet pour la personne qui achète, si on se met du point de vue de la personne qui veut soit faire des dons, soit acheter des goodies, comme on dit.
Oui, plusieurs projets à soutenir, elle peut effectivement faire son panier et puis avoir l'ensemble de ses goodies envoyés avec un seul frais de port. Pour les dons, c'est pareil. Ça permet de faire un don où on va donner 5 euros à l'April, 5 euros à Debian France, 5 euros à la Quadrature du Net. Et puis, voilà, on est...
Et si vous ne faites que des dons, on vous offre les frais de port.
Oui, on est comme ça. Donc, on est assez sympa. Cool.
Et donc, sur en vente libre, on trouve donc des t-shirts, des autocollants, des outils de communication, des guides.
Les super t-shirts de Charlotte.
Ah, les super t-shirts pour Ubuntu. De Charlotte. Il y a les guides Libre Association.
Les jolis dessins.
Des jolis dessins, oui. Des guides Libre Association que j'en ai apporté. Parce qu'il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, une partie du matériel est stockée dans les locaux de
Cause Commune.
De Cause Commune. Donc aujourd'hui, il y a combien ? Il y a une dizaine de structures participantes. Est-ce que vous êtes capable de me les citer ou c'est moi qui le fais ?
Alors, je peux commencer avec Framasoft, Ubuntu FR, Debian France, Mageia, Borsa Linux qui est Fedora francophone.
La distribution GNU Linux, Fedora.
C'est ça. L'April, pas cité l'April. La Mouette qui s'occupe de bureautique.
Lionette.
Alionette qui est OpenSUSE.
Une autre distribution.
Lila qui est un collectif de graphistes, il me semble.
Une des personnes travaille notamment sur le projet GIMP aussi. C'est développeur GIMP. Libre comme art, je crois, Lila.
C'est ça.
Ouais. Il y a Kaganat aussi.
Kaganat, c'est quoi Kaganat ?
Aucune idée.
Kaganat, c'est un MMORPG complètement libre. Alors, c'est un jeu.
Un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, c'est ça ?
Un MUPORG.
les sigles. Il y a la Quadrature du Net.
Il y a la Quadrature du Net qui nous a rejoint là en décembre.
D'accord. Alors, en vente libre, c'est géré que dans un mode bénévole. De quoi avez-vous besoin ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ?
Oui.
On
a besoin de bénévoles pour faire les envois parce qu'on est actuellement super à la bourre. Non, ça fait là des fois on est très 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 réactif et on envoie les colis le jour même voire le lendemain, le lendemain voire le jour même plutôt dans ce sens-là. Parfois on a jusqu'à 10 jours de retard juste parce que les bénévoles qui le font habituellement sont pas dispo ou sont débordés, pas dispo. Petit problème technique, genre il manque des papiers collants ou des enveloppes, mais ça c'est très rare. Donc on a besoin de bénévoles, mais vous pouvez écrire du coup si vous êtes volontaire, écrivez à contact@enventelibre.org et avec votre CV et votre lettre de motivation.
Dans un format ouvert.
Oui, en ODT ou en PDF ou en .txt.
Encore mieux. Et sur le site de l'April, vous trouvez une référence avec un billet qu'a posté Magali Garnero, qui est multicasquette dans le monde du logiciel libre.
Qui est trésorière.
Qui est trésorière dans Vente Libre, qui est membre du CA de l'April de Framasoft, qui a publié récemment sur Linux FR un billet expliquant un petit peu les différentes façons de contribuer en Vente Libre et aussi pour les structures qui veulent participer. Comment récupérer une copie de la convention pour s'intégrer dans ce projet. Exactement. Donc, on va rappeler peut-être le point le plus important.
Enventelibre.org.
Voilà, il y en a un qui suit, donc enventelibre.org.
Tout attaché.
Donc, je vous remercie tous les deux pour cette présentation et puis pour votre échange sur les distributions GNU Linux.
C'est un plaisir.
Vous entendez le générique. L'émission va bientôt se terminer. Je vous l'avais annoncé déjà la semaine dernière, mais je vais le refaire. Vous pouvez utiliser la boîte vocale de la radio Cause Commune pour faire connaître votre travail, parler d'un projet important. Donc vous pouvez appeler le 01 88 32 54 33. Donc je répète, 01 88 32 54 33. Vous laissez un message jusqu'à 10 minutes maximum et ensuite il passera à l'antenne plusieurs fois de suite, sans doute dans les différentes émissions. Donc la semaine prochaine, je regarde s'il y a d'autres annonces, bon on les a fait tout à l'heure. La semaine prochaine, nous ferons un point sur la directive droit d'auteur suite aux événements qui se sont passés cette semaine, c'est-à-dire l'échec du trilogue, donc la négociation entre le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne. Donc nous parlons de ce sujet-là. Donc on se retrouve mardi prochain. Je remercie évidemment donc Charlotte Boulanger qui était à la régie et pour Ubuntu FR, Jean-Christophe Monard qui était au téléphone pour Mageia, Nicolas Dandrimont pour Debian, Olivier Fraisse dit Olive pour Ubuntu FR. Et on se retrouve donc mardi prochain à 15h30. Et d'ici là, portez-vous bien.